C'est déjà le printemps chez nous d'ailleurs, avec les arbres en fleurie. Et ça nous rappelle que bientôt nous allons débuter un nouveau cycle de fêtes annuelles. C'est l'occasion de réfléchir sur l'engagement que nous avons pris, ou que nous ferons, voilà, je vous l'ai dit, que nous ferons lors de notre baptême. Un engagement à faire tout ce que nous pouvons pour mener une vie conforme à la voix de Dieu, sans péché, une vie sans péché. Un engagement à nous relever à chaque fois que nous trébuchons. Un engagement à demander pardon à Dieu de voir trébucher. Et un engagement à continuer notre voyage sur le chemin étroit. La Pâque symbolise le sacrifice du Christ, le sacrifice de Christ, pour nous permettre d'avoir une chance de salut en payant le prix de nos péchés. Et cette commémoration annuelle solennelle de la mort du Christ est suivie des jours des pains sans levain, qui symbolise cette purification du péché. Mettre le levain hors de notre demeure revient à mettre le péché hors de notre vie. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et nous lisons, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Avant ces fêtes, nous devons faire un bilan personnel et nous devons demander quelle attitude est profondément ancrée en nous, ancrée dans notre cœur. Nous lisons verset 8, célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, écoutez bien, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Frères et sœurs, il faut se débarrasser du levain, du péché. Mais il faut le faire en profondeur. Notre purification doit concerner notre attitude, afin que nous célébrions les jours des pains sans levain de pureté et de vérité, et non avec le levain de malice et de méchanceté. Il y a du levain contenant la malice et la méchanceté, contrasté avec la pureté et la vérité. Ce verset nous présente un contraste important de comprendre. Il faut bien comprendre ce contraste avant la Pâque. Il est facile de voir la différence entre un pain levé et un pain sans levain. Mais il faut voir plus loin que le côté physique des choses. La Bible parle de méchanceté et de pureté. Cela dépasse le physique. Cela concerne notre attitude. Il est donc important de voir une bonne attitude. Et c'est quelque chose qui se travaille au fil du temps. C'est pourquoi je vous parle de la Pâque aujourd'hui. L'une des deux attitudes émane de Dieu et l'autre émane de Satan. Une attitude ressemble à la nature de Dieu et l'autre à la nature de Satan. Et pourtant, les deux attitudes sont mentionnées dans le contexte de la Pâque. Il est donc important que nous développions l'attitude qui émane de Dieu, la pureté, et non l'autre. Matthieu chapitre 6, verset 1. Matthieu chapitre 6, verset 1. Matthieu 6, 1, nous lisons. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alors, pourquoi pratiquez-vous la justice? Est-ce pour plaire à Dieu ou bien est-ce pour impressionner notre entourage? C'est un danger connu et nous le voyons mentionné ici dans Matthieu 6. Dieu ne veut pas, par exemple, que nous prions en public, sauf brièvement au début et en fin d'assemblée. Nos prières doivent être discrètes et entre nous et Dieu uniquement. Cela ce n'est pas un spectacle. Verset 5, nous lisons, toujours dans Matthieu chapitre 6, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Jésus ne mâche pas ces mots. Il traite celui qui prie, ici, d'hypocrisie. Et pourtant, il est bon de prier, il est nécessaire qu'on prie. Mais encore une fois, c'est une question d'attitude. L'hypocrite, ici, prie avec le désir d'être vu par les autres. Quiconque se vante de connaître sa Bible mieux que les autres est aussi un hypocrite. Le vantardise fait de lui un hypocrite, comme celui qui prie pour être vu. Cette attitude contient de l'ambition, de la vanité, entre autres, hein, elle contient du levain. Nous ne savons pas combien de Pâques nous aurons avant le retour du Christ. Mais nous sommes tous conscients, comme M. Ames vient de nous rappeler, que les événements qui se déroulent actuellement visent l'accomplissement des prophéties. Il est temps d'ouvrir les yeux sur les mauvaises attitudes cachées dans notre cœur, afin de vivre les fêtes divines avec humilité et gratitude. Regardons la vie de deux rois. Saül et David. Ces deux rois ont la particularité d'avoir été choisis par Dieu. Le peuple d'Israël voulait être comme les autres peuples et voulait un roi. Dieu a offert à ces deux hommes l'opportunité de devenir roi d'Israël. Ils n'ont pas vécu cette opportunité de la même manière. Ils n'ont pas fait le même voyage, la même expérience, parce qu'ils avaient des attitudes différentes. Actes chapitre 13, verset 21, verset 22. Actes chapitre 13, verset 21, verset 22. Le peuple d'Israël demandèrent alors un roi. Et Dieu le donna pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David n'était pas parfait. Nous savons qu'il a commis de graves erreurs, mais c'était un homme qui voulait faire toute la volonté de Dieu. Et nous savons qu'il s'est repenti sincèrement de ses erreurs. Son désir profond était de plaire à Dieu. C'est pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. Saül, lui, voulait faire les choses à sa manière. Il ne cherchait pas à faire la volonté de Dieu, mais plutôt la sienne. Et en plus, il était jaloux de David. Ces deux hommes ont eu des intentions meurtrières. David fit tuer le mari de la femme qu'il convoitait. Saül essaie de tuer David. Aucun homme n'est parfait. Mais la différence entre les deux hommes, c'est l'attitude. L'attitude de Saül s'est aggravée avec le temps. Il est tombé dans une spirale négative qui l'a éloigné de Dieu. Dieu a remplacé Saül par David. 1 Samuel chapitre 16. On va commencer au verset 1. Premier livre de Samuel, chapitre 16. Je vais commencer au verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel, évidemment, aimait Saül. Il était dévasté par la situation. Mais Dieu avait pris sa décision. Saül devait être remplacé. Et quand il guida vers David, il l'a mis en garde. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ça, c'est une citation de Psaume 147, verset 10. L'apparence extérieure n'a pas d'importance pour Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur, c'est l'attitude. Dieu connaissait le cœur de David. Dieu savait qu'il n'était ni fier, ni ambitieux. Il savait que David défendait Dieu avec zèle. Il avait montré en osant affronter Goliath. 1 Samuel chapitre 17, lisons verset 41 au verset 44. Premier livre de Samuel chapitre 17. Verset 41 au verset 44. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Voilà Goliath, fier de sa statue. Mais ses malédictions n'étaient que du vent, évidemment. Et David ne le craignait pas, parce qu'il connaissait le vrai Dieu. Comparons l'attitude de Goliath avec celle de David. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, au verset 47 maintenant. Verset 45, au verset 47. David sait qu'il n'est pas grand-chose et que la victoire appartiendra à l'Éternel. Lisons, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre mes mains. David ne se vante pas. Il ne parle pas de lui-même, mais de l'Éternel. Ce qui motive David, ce n'est pas que l'on mette sur un piédestal, mais qu'on reconnaisse la supériorité de Dieu. Et David n'affronte pas Goliath pour lui-même, mais pour Dieu. Lorsque nous prions le même Dieu. Le même Dieu que David a prié. Le même Dieu qui a donné la victoire à David. Posez-vous la question. Avons-nous la même attitude que David? David était dévoué à Dieu. Il comptait sur Dieu. Il faisait confiance à Dieu. David risquait sa vie au service de Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur sa sagesse, sur sa justice. David était vraiment à l'opposé de Saül, qui ne voyait que son intérêt. 1 Samuel chapitre 24, verset 4. 1 Samuel chapitre 24, verset 4. Dans les premiers versets, vous lirez que Saül a essayé de tuer David. Et lorsque l'opportunité a été donnée à David de prendre la vie de Saül, David n'a pas osé lever la main sur celui qui avait été oint par l'Éternel. 1 Samuel chapitre 24, verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. D'autres termes, il devait aller à la toilette. David et ses gens étaient au fond de la caverne, et les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » Bon, Saül était dans une situation particulière, particulièrement vulnérable. Mais David n'en a pas profité. Malgré les encouragements de ses hommes à saisir l'opportunité. Continuons. David se leva et coupa doucement le pan du menton de Saül. Pouf, quel couteau, hein? Après cela, la queue lui battait parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Et par ces paroles, David arrêta ses gens, on est au verset 8 maintenant, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Que peut-on apprendre? Ben que David avait un épée bien tranchante. Saül ne semble pas avoir remarqué qu'un morceau de manteau avait été coupé, et David et ses hommes étaient restés silencieux. Mais surtout, David ne profita pas de l'occasion. Il se repentit même d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Les deux hommes n'avaient pas la même attitude. Vous voyez comment Saül ne suivait pas les instructions que Dieu lui donna. 1 Samuel chapitre 15, partie de verset 3. 1 Samuel chapitre 15, verset 3. En fait, Dieu demanda à Saül de détruire Amalek, de détruire complètement tous les habitants et tous les animaux, y compris le roi Agag. Ces gens devaient commettre des abominations pour que Dieu souhaite leur destruction. 1 Samuel chapitre 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais Saül n'avait pas respecté, ou il n'avait pas le respect de Dieu qu'avait David. Verset 9, lisons. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et le second porté, les agneaux gras et tous ceux qui avaient du bon, et ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était misérable et chétif. Saül ne cherchait pas à faire la volonté de Dieu. Il considérait ses pensées supérieures aux ordres de Dieu. Et cette arrogance eut des conséquences. Verset 10, toujours dans le chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, verset 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens ou je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Et en fait, Dieu avait besoin d'un roi qui écouterait ses instructions et non quelqu'un qui s'imaginait savoir mieux que lui, mieux que Dieu. Alors demandons-nous, sommes-nous un Saül? Avons-nous une attitude comme Saül? Ou sommes-nous un David? Quand l'erreur de Saül lui fut reprochée, qu'est-ce qui s'est passé? Il blâma le peuple. Au lieu de prendre la responsabilité de son erreur, comme l'avait fait David, il manquait d'humilité. Comme je dis souvent, l'humilité est essentielle. Essentiel si nous voulons plaire à Dieu. Sans humilité, nous ne voyons pas nos erreurs. David avait cette attitude. Il avait cette humilité. Et donc, cette clairvoyance sur ses erreurs. Lisons le psaume 51. Les premiers quelques versets, vous pouvez tout lire chez vous. Avant la Pâque, n'est-ce pas? Psaume 51, ici nous lisons au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, nous lisons, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et cette humilité que nous lisons ici, est essentielle pour la réussite de notre vie spirituelle. Sans elle, nous ne rentrerons jamais dans le royaume. Et cette humilité manquait à Saül. Toujours dans 1 Samuel chapitre 15, verset 16 maintenant. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Et Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Et au verset 19, encore cette petite phrase. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Autrement dit, quand tu étais petit, tu étais humble. Tu écoutais l'Éternel. Mais aujourd'hui, si tu es roi, tu as perdu ton humilité et tu ne veux rien faire d'autre que ta volonté. Et la conséquence de tout cela est dans la dernière phrase du verset 23. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Le cœur de Saül était plein de levain, hein, de rébellion, de méchanceté, de malice et méchanceté, et d'accusation. Tandis que le cœur de David n'était pas parfait, car c'est humainement impossible, mais il avait dans son cœur le désir de faire la volonté de Dieu. Comprenons que tout cela est une question d'attitude. Et c'est pourquoi Dieu attire notre attention sur l'attitude avec laquelle nous célébrons la Pâque et observerons les jours des pains sans levain. La Bible nous enseigne que personne n'est sans levain. Il nous est humainement impossible d'être sans levain. Celui qui prétend de ne pas avoir du levain en lui est un menteur. Mais quelle est notre attitude? C'est ça la question. Quelle est notre attitude? Quel est le profond de notre obéissance? Méditez la différence d'attitude entre ces hommes et demandez à Dieu de vous aider à avoir un cœur repentant et contrit comme David. La Bible nous en donne un autre exemple d'un homme obéissant, Abraham, le père des fidèles. Dieu aimait Abraham parce que lui aussi voulait faire la volonté de Dieu. Et quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, Abraham le fit. Et quand Dieu lui demande de sacrifier son fils, il le fit. En tout ayant confiance en Dieu, car il dit à ses serviteurs au moment où il s'éloignait avec son fils, n'oublions pas, nous reviendrons. Il savait que Dieu interviendrait. Remarquez l'attitude d'Abraham quand il dut se séparer de son neveu Lot, car le troupeau devenait trop grand, vous vous rappelez. Genèse chapitre 13. Partie de verset 2. Genèse chapitre 13. Partie de verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Puis au verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. Et le contrat était insuffisant pour qu'ils demeurassent ensemble, car le bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Puis au verset 8. Alors Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ils étaient parentés. N'oublions pas Abraham plus âgé, en fait l'oncle de Lot, il aurait pu décider qui allait où, qui prenait quoi, mais il avait une attitude généreuse et conciliante. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham ne pouvait être plus accommodant. Il laisse le choix à Lot. Ben, Lot aurait pu refuser et laisser son oncle décider. Mais ce n'est pas ce que nous lisons. Verset 10. Ben, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsor comme un jardin de l'Éternel, hein, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui, hein, choisit pour lui-même toute la plaine du Jourdain. Et il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot choisit le meilleur. Le meilleur pour ses troupeaux, sans considération pour son oncle. Et nous connaissons tous les conséquences du comportement de Lot, les conséquences de son choix. Lot a vu tous ses biens périr dans un incendie qui détruisait la ville de Sodome et Gomorrhe. D'un côté, Abraham était conciliant, généreux, et l'autre, Lot était égoïste. Comprenez-vous qui avait une attitude semblable au levain? Avant la Pâque, et avant les jours des pains sans levain, nous devons réfléchir à notre attitude. Et généralement, lorsque la Bible oppose deux personnages, c'est pour nous montrer une bonne attitude et une mauvaise attitude. Voyons un autre exemple. Deux frères, on va lire dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, deux frères qui avaient une mauvaise attitude. Tiens, les deux frères avec une mauvaise attitude. Mais l'un des deux se repentit et changea son cœur. Luc chapitre 15, on va lire à partir du verset 11. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père le partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien des mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Ce fils se trouva dans le besoin, et il revient chez lui avec une attitude repentante. Il était désolé de son comportement. Il faut comprendre qu'il était sincère. Verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Nous voyons la même attitude que David, n'est-ce pas? « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Mais son père était ravi de son retour et a pardonné ses erreurs. Il organisa une fête en l'honneur du retour de son fils, et son fils avait eu l'humilité de reconnaître ses erreurs et de les admettre à son père. Un bel exemple de repentir. Son frère ne s'était pas rebellé contre son père, mais il se vantait d'être meilleur que son frère. Lisons à partir du verset 25. Toujours dans Luc chapitre 15, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint, et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il le retrouvait en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Ben, il aurait dû être heureux, n'est-ce pas? Il aurait dû être heureux pour son père et pour son frère même. Mais ce n'est pas ce sentiment qu'il avait dans le cœur. Mais c'est 28. Il se met en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit et pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Il était rempli de colère et de l'amertume. Et de plus, il était plein de vanité. Il se disait supérieur à son frère. Il ne faut jamais se comparer aux autres, hein? Mais au Christ et à Dieu, n'est-ce pas? Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Très égoïste, n'est-ce pas? Posons-nous la question. Avons-nous l'attitude du frère repenti ou l'attitude du frère qui se croit mieux que les autres? Nous sommes tous des fils prodigues, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, nous avons tous été réconciliés avec notre Père. Et la Bible regorge des récits présentant des contrastes entre le bien et le mal, la bonne attitude et la mauvaise attitude. On a étudié l'histoire de Judas, ses erreurs et ses conséquences, et celle de Pierre, qui reniait le Christ à sa réaction quand il se rendait compte de son erreur. Regardez sa réaction. Luc, chapitre 18, verset 9 au verset 13. Luc, chapitre 18, verset 9 au verset 13. Voici un contraste présenté sous forme de parabole. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Le Christ veut que nous comprenions que nous ne devons pas nous comparer aux autres. Et surtout conclure que nous sommes meilleurs que les autres. Le Christ veut que nous comprenions que nous ne devons pas comparer aux autres et conclure que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Deux hommes montèrent au temple, verset 10, pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne le dîme de tous mes revenus, mais peu importe nos actions, cet homme manque d'humilité. » Il s'imagine meilleur que les autres. Et son attitude gâchait tout. La difficulté d'une telle situation est que l'orgueilleux n'a pas conscience de son orgueil. Il ne se regarde pas dans le miroir, il regarde les autres. Ben, il est facile de critiquer les autres, facile de trouver faute chez les autres. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Donc, cette introduction en dit, qui suis le pécheur. C'est un homme humble de cœur. Hein, le premier exhibe ses qualités. Le second se frappe la poitrine. Il reconnaît sa culpabilité. Il est rempli d'humilité. Et ce contraste illustre, lui aussi, les deux manières d'observer la Pâque et le jour des pains sans levain. Tout est une question d'attitude. Comme je disais, la Bible est pleine de contrastes. Alors, le plus grand contraste est évidemment celui de Satan et du Christ. Lucifer était un ange, ou un archange créé par Dieu, extrêmement puissant, superbe. Ézéchiel chapitre 28, verset 11 au verset 15. Ézéchiel chapitre 28, verset 11 au verset 15. Ézéchiel 28, verset, à partir de verset 11 jusqu'au verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pieds étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Lucifer a passé de la sagesse à l'iniquité. Il avait des merveilleuses qualités, mais il se met à devenir vaniteux et ambitieux. Lucifer voulait se comparer à Dieu. Il voulait être égal à Dieu et s'emparer du trône de Dieu. Et à cause de sa vanité et son manque d'humilité, Lucifer a perdu tout, comme ce fut le cas de Saül, comme ce fut le cas pour Judas, pour tous ceux qui se détournent ou qui se tournent loin de Dieu. Pour Satan, ce revirement est malheureusement permanent. Ils devront payer les conséquences pour le reste de l'éternité. Alors, quel contraste avec le Christ? Il se déployait de sa divinité pour devenir un homme simple, ou un simple homme. Le Christ a choisi l'humilité et générosité afin de pouvoir partager tout ce qu'il a avec nous. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, partie de verset 1, nous lisons déjà au verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et voici une attitude complètement opposée de celui de Lucifer, de Satan, qui se considérait comme supérieur aux autres, voire supérieur à Dieu. Alors que l'attitude du Christ était traiter les autres avec respect. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et encore une fois, cela décrit une attitude sans levain. Ayez en vous, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais s'est déployé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux, de ceux qui sont sur la terre et de ceux qui sont sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors le Christ a-t-il profité de son séjour sur terre pour se vanter, pour se prendre plus important que son Père? Vous lirez dans Jean 14, 28, « Le Père est plus grand que moi. » Non, non, pas du tout. Le Christ était un exemple d'humilité. Il est important de voir la différence entre l'attitude de notre Sauveur et l'attitude de Satan. Et à travers ces exemples, nous découvrons deux attitudes opposées. Tout comme sont opposées un pain sans levain et un pain levé. Nous savons que nous devons nous préparer physiquement pour le fait, que nous devons faire le grand nettoyage du levain qui se trouve dans nos maisons, mais ne négligeons pas la préparation spirituelle, c'est-à-dire la réflexion de notre attitude. Alors prenez le temps de méditer sur l'attitude, notre attitude, jeûner avant ces jours qui vont bientôt arriver et méditer sur ces contrastes que nous venons de passer en revue. Examiner ces exemples comme des miroirs à découvrir ce qui est caché dans notre cœur. Dieu attend de nous que nous ayons un cœur contrit, un cœur humble et un cœur déterminé à faire sa volonté avant la nôtre. Comme nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, « Célébrons donc la fête avec les pains sans levain de pureté et de vérité. »